Mes frères n'ont plus heurté.
Oh, what have we here?
Radio Campus Orléans.
Yeah!
Peut-être pas Radio Campus Orléans, mais j'ai leur numéro de téléphone. Eh, c'est bon d'appeler Campus Orléans.
C'est de là-bas, là-bas.
Radio Campus 88.3 et c'est donc les clitoriciennes ravies de vous retrouver et on vous retrouve avec cette question. Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée? C'est la question posée depuis plusieurs années par le collectif d'activistes américaines Guerilla Girls qui dénonce la sous-représentation des femmes artistes dans les grands musées nationaux. Car des femmes encadrées dans les musées, on en voit. Elles sont mignonnes, elles sont gracieuses, elles sont girondes, elles sont accortes, elles sont blanches surtout et jeunes dans l'ensemble. Des femmes objets et sages qui ne viendront pas perturber l'ordre établi. Enfin, je veux dire, le cadre doré qui les tient prisonnières depuis des siècles. Mais d'où nous viendrait cette obscure tendance réactionnaire qui fait qu'en France, aujourd'hui encore, le Louvre, j'ai bien dit, le Louvre, cette institution, ne compte qu'une trentaine de peintures de femmes artistes dans ses collections. Et pour le musée d'Orsay, un peu moins de 7% sur l'ensemble des artistes. On peut ajouter à ce constat celui de la nature et de l'importance des œuvres. Car au Louvre, mais oui, la très grande majorité des œuvres de créatrices s'avèrent être des dessins ou des jolies miniatures. Peut-être que l'on peut expliquer cet immobilisme par une mixité laborieuse à installer au niveau de la direction des établissements culturels. En effet, on compte seulement 40% de femmes à la direction de musées nationaux en France. Ce qui est quand même étrange, car on compte bien davantage d'étudiantes que d'étudiants dans les écoles nationales supérieures d'art. On voit moins de femmes, pourtant professionnelles de la culture, que d'hommes. Et quand elles tentent l'aventure professionnelle des arts visuels et des métiers d'art, elles s'exposent à un écart médian de revenus de l'ordre de 22% avec les professionnels hommes. Ces chiffres, ils sont vrais, ils sont sûrs, ils sont publiés par le par le collectif HF et ils datent de 2018. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que les femmes subissent encore donc pleinement le mythe de la toute-puissance du stéréotype du génie créateur masculin, qui les maintient dans un processus d'évaporation. Au fur et à mesure du temps, elles deviennent moins actives, moins payées, moins aidées, moins visibles, moins récompensées, et, on l'a dit et on le répète, moins en situation de responsabilité que leurs homologues masculins. Est-ce que rien ne bouge? Sommes-nous contraintes à ramer encore sur notre radeau de la Méduse en agitant mollement nos soutiens-gorge brûlés depuis des années pour qu'on nous remarque enfin? Au loin se profilerait peut-être un ailleurs enviable, un horizon d'égalité vers lequel tendre. Serait-ce un mirage ou serait-ce une réalité? Les choses semblent bouger. Ainsi, le collectif HF a comptabilisé que la part d'œuvres réalisées par des femmes dans les acquisitions des fonds régionaux d'art contemporain sont montées à 58%, ce qui est quand même un petit pas en avant. On peut en déduire que les œuvres de créatrices femmes contemporaines sont de plus en plus visibles. Mais qu'est-ce que le rivage reste encore loin? Alors nous, on a décidé de passer à l'abordage avec notre invitée, Bulle Derouette, artiste plasticienne orléanaise, qui aime aussi les jolis cadres dorés. Hein, Bulle, tu aimes ça?
Oui,
mais pas... voilà, mais pas pour y enfermer des fantasmes masculins. Elle va nous parler de son univers artistique, de son parcours, de ses engagements féministes. Bienvenue, Bulle.
Merci, bonjour Valérie, bonjour les filles.
Bonjour.
Et bienvenue à nos deux chroniqueuses du jour, Mighty Boops.
Bonjour.
Et Glitch.
Hello.
Alors, on commence cette interview. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec ce constat que l'on a fait?
Complètement. Et d'ailleurs, c'est les Gorilla Girls, c'est des singes, c'est des femmes singes.
Oui, tout à fait. Avec des très très beaux visuels, d'ailleurs.
Ouais.
Faut aller voir leur site, il y a plein de choses rigolotes. Alors, toi, ça fait combien de temps que tu es artiste plasticienne? Je ne sais pas déjà si ce terme te convient.
Plasticienne, ouais, je ne sais pas trop. Artiste, oui, peut-être. Peintre, sûrement. Je fais ça depuis que je suis toute petite. Je vais essayer d'aller vite. Et j'aimais ça depuis gamine. Et mais à l'âge de, enfin, au lycée, je me suis dit, je vais pas faire A3, je vais faire quelque chose de littéraire, parce que pour faire comme tout le monde. Et heureusement, mes parents m'ont poussée, m'ont dit, mais non, mais depuis que t'es gamine, t'aimes faire ça, donc tu vas pas aller faire du français ou des maths. Et donc, c'est grâce à eux quand même que j'en suis là. Et j'avais vraiment des soucis à l'école. J'ai redoublé deux fois. Et en fait, après, j'ai réussi à intégrer une école d'art à Paris. Enfin, pas vraiment une école d'art. C'était carrément un CAP de dessinatrice d'exécution en publicité. Ce qui m'a valu... Enfin, grâce à ça, j'ai pu rentrer aux Beaux-Arts d'Orléans parce qu'il fallait le bac et je ne l'avais pas. Et du coup, j'ai passé 3 ans en design objet à Orléans. Voilà. Et puis, ensuite, pas mal de petits boulots là-dedans. J'avais un agent à Paris. J'ai fait des belles productions pour des grandes marques. Et voilà. Après, il y a eu la crise. En 2008, je suis tombée enceinte. Enfin, j'ai eu mon petit garçon.
C'est pas la crise. C'est pas lié, les deux.
Non, c'est pas lié, les deux. Mais c'est tombé en même temps. Et en fait, je me suis séparée de mon agent. On a déménagé. On était à Paris. On a déménagé. On est venu habiter à Orléans, revenu habiter à Orléans. Et en fait, c'est là que je me suis beaucoup remise à la peinture, en fait. Je faisais de la peinture, je faisais pas mal d'expos à Paris aussi, mais plutôt de l'acrylique. Et en fait, en revenant à Orléans, je me suis mise complètement à la peinture à l'huile. Et en fait, j'ai fait plus que ça. J'avais plus du tout de travail, quasiment plus de boulot de graphiste, d'illustratrice. Vraiment plus que de la peinture.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu as un style réaliste ?
Ah, complètement. D'accord. Hyper réaliste même, voire...
Mighty Boops.
Oui, dites-nous un peu, Bulle, qu'est-ce qu'elle raconte, vos peintures, vos œuvres ? Racontez-nous un petit peu.
Moi, je fais quand même pas mal de... Je fais quelques portraits, de moins en moins. Mais ce que je fais plutôt des natures mortes, un peu d'inspiration, je crois, flamande, hein, avec la lumière, etc. Et en fait, à première vue, quand on regarde mes toiles, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est rose ou ça brille ou il y a plein de couleurs. C'est girly, le terme que j'aime pas depuis des années. Et en fait, voilà, c'est vrai que je traite après plus des sujets. Enfin, c'est vrai que ça fait assez... C'est un peu un type anachronique. Parce qu'en effet, comme tu disais tout à l'heure, j'ai les cadres dorés. Mais j'aime plus, en fait. Là, je me suis rendu compte, là, depuis quelques mois, que j'aime plus du tout. Je chinais beaucoup les brocantes pour trouver ces toiles. En fait, c'est ça qui me plaisait. C'est vraiment d'avoir quelque chose d'ancien et, en fait, avoir un sujet, un thème complètement moderne. Et c'est vrai que c'est de plus en plus sur le thème... c'est sur le thème de la femme... Mais je vais de plus en plus dans des sujets un peu pas très drôles ou pas très glam ou pas très funky, je sais pas.
Féministe ?
Oui, quand même. Bah oui. J'ai travaillé, j'ai fait une toile sur les règles, sur la précarité menstruelle. J'avais fait une grande toile que j'ai toujours sur la femme, du coup, sur la naissance, la sexualité, plein de sujets féminins. Et là, je suis en train d'en faire une. La dernière que je suis en train de faire, là, que je suis en train de terminer, ça va être sur le cancer du sein. Et c'est drôle, enfin, c'est pas drôle, mais je mets quelques jours des petites photos de mon travail sur les réseaux. Parce que comme je fais, c'est très long, j'ai une pratique qui est vraiment hyper longue. Je mets un mois et demi à faire une toile. Donc, pour pas mettre des choses que tous les 6 mois, je mets toujours un peu, l'évolution de mon travail. Et j'ai mis une pâte de crabe l'autre jour, c'était la première couche, mais elle était vraiment super réussie. Et tout le monde m'a dit, waouh, ouais, Noël, j'ai envie de manger du crabe. Je me mangerais bien une pince. Et je leur ai dit, le jour où vous allez vraiment voir ce que c'est, encore une fois, on croit que... Donc là, ça va être sur le cancer du sein. Et celle d'après, sur la ménopause.
Ah, okay.
Alors j'hésitais un petit peu et j'en ai parlé à des copines parce que j'ai fait, en fait, ça y est, j'ai l'image et tout, j'ai fait mon montage et j'hésitais un peu. J'étais là, moi j'ai pas encore ça m'arrive pas, je sais pas ce que c'est, mais j'ai quand même envie de travailler là-dessus. Et j'étais avec 2-3 copines un peu plus âgées que moi qui avaient un peu plus de 50 ans qui, elles, connaissaient les, les bouffées de chaleur qui m'ont dit « Ouais, ouais, vas-y, fais ça, s'il te plaît, parle-en, on n'en parle pas. » Ou en tout cas, on ne l'a jamais montré comme ça. Donc, ça m'a vachement motivée pour...
Donc là, c'est la thématique du prochain.
Le prochain, ouais. Celle que je suis en train de terminer, cancer du sein. Et là, le prochain...
La ménopause.
La ménopause.
Je reviens sur l'histoire des cadres dorés. Tu as dit que tu ne voulais plus des cadres dorés. Mmh. Est-ce que c'est parce que tu fais des sujets moins drôles, comme tu dis, que tu n'en veux plus? Et est-ce que tu songes à les remplacer? Et si oui, par quoi?
Eh ben non, c'est pas parce que je fais... Parce que les sujets, ce sont toujours quand même les mêmes, malgré tout. Non, je sais pas. Je sais pas. Je pense que vraiment, c'est une histoire de... J'ai fait ça pendant presque 10 ans. J'adore aller voir ça dans les musées. J'adore voir ces gros cadres. Mais je sais pas. Là, je sens que c'est trop lourd. Enfin, je sais pas. Là,
quelque chose qui te correspond plus.
Je sais pas pour te l'expliquer, mais ouais, ça me correspond plus. Je trouve ça lourd. Déjà que les sujets sont un peu... lourd et que c'est vrai que mes toiles sont vraiment hyper chargées. Donc c'est vraiment une histoire de goût et je n'ai aucune idée, justement, c'est le problème. Je ne sais pas par quoi je vais les remplacer.
Ok.
J'avais l'idée, j'avais fait une toile cet été, c'était sur le thème de l'adolescence, les adolescents un peu... c'était plus après le Covid qui avait été un peu abandonné, qui était mal, les dépressions, etc. Enfin, tout le mal-être des ados. J'ai moi-même un garçon de 14 ans. Et je l'avais peint, du coup, avec un sac sur la tête, avec un t-shirt avec écrit « Everything sucks ». Et du coup, je ne savais pas du tout comment j'allais encadrer cette toile. Et j'avais une idée que je trouvais hyper cool. Je pense que ça aurait vraiment bien rendu mettre tout un néon autour. Mais le néon coûtait une blinde, donc je l'ai vendu comme ça, avec une petite casse américaine.
Et en passant de tes sujets, tu disais toi-même un peu girly, en tout cas peut-être moins engageant au niveau de la thématique sociétale, en passant de ça à des thématiques plus féministes, plus, en tout cas moins drôles, plus sérieuses, comme tu dis, est-ce que tu sens que tu as perdu des opportunités en termes de visibilité, ou même en termes économiques ? Aussi.
Alors, tu veux dire que je suis moins montrée ou que j'ai moins d'exposition?
Exactement.
Ouais. Alors, je ne sais pas. Justement, je n'arrive pas à trouver ma place à Orléans. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Artistes Orléanais, mais c'est vraiment... Il y a vraiment des choses sympas. C'est chouette, mais on va plus être dans les paysages ou les choses un peu plus classiques. Et c'est vrai que moi, mes sujets, à chaque fois, ils font un peu... Là, j'avais fait une petite fille sur le sujet des femmes afghanes, justement. J'avais fait une petite ado, j'avais pris ma nièce pour modèle. Je l'avais exposée là-bas, mais bon, voilà.
Au milieu des marines de Loire,
voilà,
tout ça.
Voilà, ça jure. Bon, et du coup, je sais pas du tout, je trouve pas ma place à Orléans. Il y a deux, trois assos qui font des expositions, des vernissages, mais je suis pas invitée en général. D'ailleurs, il y a eu deux, trois grosses assos. Il y avait eu au 108 là
le festival écoféministe.
Le festival écoféministe que j'avais contacté. Enfin, je les avais vus l'année dernière. Et puis on s'était dit, ouais, ce serait sympa que... J'avais vu, en fait, c'était à la librairie, j'avais parlé avec deux, trois personnes, et ils m'avaient dit, ce serait sympa, peut-être que tu fasses... Alors, est-ce qu'ils m'ont oublié? Je pense qu'ils ont zappé après, ils n'ont pas repensé à moi. J'étais un peu déçue. Puis il y avait un autre... je ne trouve plus le mot...
Notre organisation, collectif.
Qui avait fait aussi quelque chose sur les femmes, sur le corps de la femme, et pareil, j'avais pas été invitée. Alors, c'est peut-être un oubli, je sais pas. Je ne sais pas. Les gens pensent pas forcément à moi.
Donc, on lance un appel.
Ouais.
Donc, mes pensées à bulles. Et d'ailleurs, si on veut se rendre compte de ton travail, juste parce que là, tu cites des tableaux, mais si on veut les voir, parce que là, évidemment, ça se prête pas vraiment à la radio, parce qu'on est en train de parler de toiles, visuellement, avec des visuels assez forts, mais on les voit pas. Donc, on vous renvoie sur le site de Bulderouette, qui est...
C'est www.bulderouette.net.
Voilà.
Et puis après, sur Instagram, alors là, j'ai pas l'adresse exacte. Bulderouette, vous tapez, vous allez trouver. Non, mais ouais, c'est vrai qu'Orléans, je sais pas. Après, ce style de peinture aussi est spécial. Et en effet, les sujets que je sais pas, des sujets...
Mainstream.
Ouais. C'est... Même ma mère, maman, je t'aime, à chaque fois me dit, mais tu t'aides pas quand même. J'avais fait justement, quand j'avais fait sur la précarité menstruelle, elle m'avait dit, mais qui va acheter ça? Et s'ils achètent ça, peut-être qu'ils vont les mettre dans leur toilette. Je fais, bah, c'est pas grave, c'est pas un problème. D'ailleurs, elle a fini dans une salle de bain qui était dans les tons de ma toile. Une copine l'a acheté, elle m'a envoyé une super photo. Donc, elle a fini quand même dans une salle de bain, mais elle a sa place dans la salle de bain aussi, il n'y a pas de raison.
Et du coup, est-ce que tu penses que justement, l'art, c'est fait pour parler des sujets comme ça, ou ça devrait être quelque chose de léger, qui fait juste plaisir aux gens? Parce qu'en fait, ce que tu nous dis là, c'est ça, c'est que ça ne fait pas assez plaisir aux gens pour que tu aies de la visibilité, en fait.
Je ne sais pas, en fait, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Et c'est vrai que là, je rigolais un peu, mais jaune cet été... avec mon compagnon, parce que quand on regarde les galeries, les expos, et on se disait, mais en fait, là, ce qui fonctionne vachement en ce moment, c'est les peintres, excusez-moi, les peintres qui font des piscines. Il y a beaucoup de peintres qui font des piscines un peu à la Hockney, quoi, enfin, des paysages un peu comme ça. Et ça marche à fond. Ouais. Après, c'est des moments de... Même quand j'étais illustratrice, il y avait... À un moment, j'ai plus trop travaillé, mais c'est des effets de mode. Et pourtant, on est quand même vachement dans la femme, dans tout ce qui est ce souci, de tout ce qui est... Ouais. Voilà, en ce moment. Enfin, heureusement, mais depuis quelques années. Mais c'est pas Orléans que je vais... Je pense que c'est pas Orléans que je vais trouver ma place. Et oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Y en a qui vont avoir besoin de faire des choses. Moi, au début, quand je voulais faire ça, je voulais me lâcher, faire des choses abstraites. Je voulais vraiment... Et puis, en fin de compte, chasser le naturel, parce que j'ai fait des écoles où je faisais des choses vraiment hyper réalistes, et on nous corrige à la loupe. Et en fait, je suis retombée en plein... Non, je sais pas. Moi, j'ai envie de parler, justement. J'ai pas envie de faire quelque chose de beau parce que c'est joli, un joli paysage, un joli canard. Et d'ailleurs, une copine m'avait dit un jour, mais peut-être que tu devrais faire des natures mortes avec des canards... vous savez, les
sextoys.
Non, les canards,
ça serait bien.
Mais... Tu sais, quand tu vas à les volailles, là, quand tu vas à la chasse,
les poules d'eau.
Espèce de nature morte, les poules d'eau.
Les faisans, quoi.
Ouais, faisans, voilà.
Un gros faisans étalé.
C'est ça. Et non, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de joli pour faire quelque chose de joli.
D'accord.
Et d'ailleurs, je pense que. Alors, depuis peu, je suis devenue prof d'art plastique. Et en fait, je disais que c'était chouette, ça, justement, parce que. Alors, j'ai des thèmes pas simples, mais justement, je voulais rentrer dans des thèmes encore plus durs lorsque je travaille. Enfin, quand je travaillais au collège, j'avais des élèves. À un moment, je sais qu'il y avait un ou deux élèves qui avaient des problèmes avec leurs parents, qui étaient un peu battus à la maison. Et du coup, je voulais faire, c'est toujours un projet, faire une toile sur les violences
domestiques.
Voilà. Et donc, je me suis dit, ça, c'est clairement une toile. Enfin, si je la vends, je pense que j'arriverai pas à la vendre. Et je me suis dit, c'est pas grave. Maintenant, j'ai plus besoin. C'est pas que j'ai plus besoin. On a toujours besoin d'argent, mais pour vivre. Mais je me dis, je peux aller encore dans des sujets encore plus difficiles. Mmh. Et c'est pas grave si elle reste au placard pendant. Mais je la montrerai. Et mais non, je ouais.
Et justement, tu parlais là du fait d'avoir été, enfin d'être prof d'art plastique maintenant. Moi, j'évoquais dans l'édito tout à l'heure la difficulté qu'il y a, qui est alors pour tous les artistes, hein, plasticiens, hein, déjà de vivre de son art, davantage marqué pour les femmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté, toi, les difficultés économiques de vivre, de pouvoir vivre de son art?
Ah ben complètement. Alors, quand j'étais à Paris et que j'avais un agent, que je faisais l'illustration, là, il n'y avait pas de problème. Là, je gagnais des sommes pas possibles. Enfin, ça n'a pas duré 10 ans non plus, mais... peut-être que je pourrais mieux répondre à la question si j'étais à Paris, dans un endroit où il y a plein de... Il y a de l'émulation, il y a plein d'endroits où exposer. Là, je suis à Orléans, il n'y a pas beaucoup d'endroits où exposer. Donc clairement non, je ne vis pas de mon art du tout. Alors je sais pas si c'est le fait d'être une femme et en plus réaliser des sujets comme ça, mais c'est vrai que quand même à chaque fois que je fais une toile, je les mets sur Instagram et je les vends systématiquement. Et là dernièrement, j'avais fait la petite toile que j'avais faite, c'était sur une citation c'est Anne-Marie Fauré ou Anne-Laure Fauré, je sais plus. C'est j'ai rencontré Dieu. Elle est noire, communiste et lesbienne.
Mmh, ouais.
Et du coup, j'ai fait cette toile. Enfin, j'avais trouvé cette carte pendant les vacances. Je me suis dit, tiens, je vais faire une toile, une peinture de cette carte. Et je l'ai faite. Et en fait, j'aurais eu aucun problème de la poster sur Instagram si j'avais pas été prof, parce que j'en aurais rien à faire et que j'assumais. Même si la phrase n'est pas de moi, mais les gens vont pas la regarder de qui est la phrase. Et c'est vrai qu'en fait, bah, je l'ai posté et on s'est vraiment pas mal posé de questions avec mon compagnon. Et en fait, on s'est dit non, il faut... On a eu peur, en fait, de la mettre. Je suis quand même dans des collèges, je suis plus... Voilà. J'avais peur un peu du retour de...
De bâton,
ouais. Et c'est un copain, c'est un garçon qui me l'a acheté, cette toile. C'est quelqu'un, un ami de Paris, qui l'a vu, qui a... Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que je dévie un peu, là, quand vous me posez une question. Mais c'est vrai que ça me fait penser à chaque fois à plein d'autres choses. Mais... Donc, du coup, oui, je vends... Alors, je n'expose pas beaucoup à Orléans, ni ailleurs. Mais d'ailleurs, je serais bien embêtée, parce que dès que je fais une toile, en fait...
Elle est vendue.
Elle est vendue.
Tant mieux.
Oui, tant mieux. C'est vrai que j'aimerais bien, quand même, montrer un peu plus, parce que c'est pas... On voit pas... Du coup, c'est des toiles que je vois, moi, et l'acheteur, en fait. Il n'y a personne qui... Voilà.
Alors,
ouais, j'ai une petite question parce que en regardant votre site, j'ai retrouvé un article de presse suite à une de vos expositions en 2018 dans la REP, qui titrait comme ça « Bulle expose le charme au féminin » et je vous passe le déroulement du champ lexical de la sensualité qui s'enchaîne dans l'article. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez un petit mot à répondre à ça. Est-ce que vous aimez être caractérisée comme ça par... Cette histoire de charme, de sensualité, voilà, comme on le fait depuis. Alors, comme Bikini Kill nous racontait dans son édito. Quoi.
Non, je vais pas jeter la pierre, parce qu'en plus, moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, il y a très, très, très longtemps, Photologue, en 2000, c'est vrai que j'étais gamine, j'étais jeune. Et bon, alors gamine, oui, je montrais un peu, je mettais des photos, comme toutes les gamines font sur TikTok un peu maintenant. Mais je t'avoue que tu me ressors ce titre d'article et... Et en fait, je me souvenais absolument pas de ça. Et je vais aller regarder l'article. À l'époque, ça m'avait pas choqué, si tu veux.
Et aujourd'hui,
c'est vrai qu'aujourd'hui, si je relis, alors il y a pas, je pense qu'il y a rien de. Mais
non,
c'est vrai.
Non, c'est
que...
pas méchant.
Mais tu
c'est
vois,
vrai,
non, mais,
mais...
En fait, c'est ça. C'est que souvent, le problème aussi avec ce que je fais, c'est qu'on dit c'est girly, c'est machin. Il y a des seins, il y a des sexes peut-être, parce qu'il y en a une avec un verre où les anciens verres où tu verses de l'eau chaude et on voit la fille qui se dénude. Ah, oui. Donc j'en ai fait une, elle avait carrément les jambes écartées, enfin c'est le courbé.
Oui, mais sauf qu'on ne dit pas de courbé, qu'il est charmant.
Non.
On est d'accord,
vrai,
on ne l'essentialise pas.
Mais
or,
du coup, alors est-ce que... Non,
femme,
mais non, mais complètement, ouais. Non, mais... Ouais. Et en plus, c'est pas du tout... Non, mais je pense qu'à première vue, et on peut s'imaginer que je fais des choses un peu... Mais là, je t'avoue qu'il y a quelques années, ça ne m'avait pas choquée. Maintenant, si je voyais ça, j'évolue quand même dans mon engagement et dans... Tout le temps, tous les jours, je découvre des choses. Et on en parlait encore avec une amie hier. On se dit, on parlait des règles. On disait, mais c'est vrai qu'avant, ça, c'était banalisé. Et en fait, on se dit, elle a 50 ans. On se dit, en fait, tous les jours, tout le temps, on se rend compte, on réalise des choses qu'on n'avait pas du tout réalisées. Il y a encore même 2-3, là, tu vois, tu me dis 2018, ça fait 5 ans. Je n'avais pas du tout tilté à l'époque. Je trouvais que l'article était chouette.
C'est très sympa.
Mais c'est vrai que maintenant...
C'est très sympa avec...
Mais maintenant, c'est clair que maintenant, tu me dis ça, oui, ça me... C'est pas que ça me choque, mais je me dis, voilà, encore une fois, c'est une nana qui expose, elle met des choses roses, elle fait des seins, et voilà, elle est cataloguée.
Et du coup, ça veut dire que ton engagement féministe... Il est né à un moment donné, enfin il a grandi aussi. Est-ce que tu as des engagements assez concrets dans un mouvement féministe ?
Alors comment dire ? J'ai des engagements. Alors déjà par rapport à mes toiles, à chaque fois que je vends, par exemple, quand j'ai fait la toile sur les règles, je verse souvent à une association. Je sais pas si c'était pour la maison des femmes que j'avais donné. Là, j'avais fait aussi une toile. Celle-là, elle est un peu, c'est sur l'avortement. D'ailleurs, on devait la mettre. On va peut-être la mettre. On voulait à un moment la mettre au planning familial. Et c'est pareil. Je donne en fait à chaque fois que je fais une toile sur un sujet quand même important, je reverse à des assos. C'est pas des grosses sommes, hein, parce que je vends pas les toiles 10 000 euros. Et puis après, oui, alors je fais partie, excusez-moi le planning, c'est vrai que je suis pas trop là aux réunions au CA, après les 7 heures de cours en ce moment, mais je fais partie aussi du planning familial, même si j'y suis pas beaucoup. Et puis, je soutiens une ou deux assos.
Et puis on te voit au manif aussi.
Et puis au manif,
avec des, toujours des super pancartes.
Bah, c'est là qu'on s'était rencontrés, d'ailleurs. Elle avait fait pas mal le tour, cette pancarte, une grande main avec écrit « Touche pas à ma meuf ». Je l'avais revue après sur, sur plein de photos et de blogs après cette grosse manif du 25 novembre 2000.
2000 avant confinement.
18 ou 19, ouais, ça doit être ça.
Ouais, très belle manif à Paris.
Ouais.
Merci Bulle, on va continuer cette discussion sous forme plus impromptue, mais déjà avant de passer à la suite de l'émission à laquelle tu contribueras aussi, tu voulais nous partager ton petit morceau fétiche du moment qui est tout frais d'après ce que j'ai compris, d'Anneau Quilbet.
Ouais, il est tout frais, enfin je pense qu'il est tout frais, en fait elle l'a joué dans son dernier spectacle à la scène nationale ou au CCNO, je sais plus.
Scène nationale,
et c'était un petit cabaret sur, qui s'appelle Les femmes, ça fait PD. Et elle a commencé son spectacle avec ce morceau, je l'ai trouvé mais génial. Et d'ailleurs, je lui ai dit que je vais en faire une peinture. Je pense que je vais m'inspirer de le titre de ce morceau pour faire une peinture. Voilà.
D'accord, donc Anneau Quilbet, artiste orléanaise, hein, locale.
Ouais.
Là, on est dans du circuit court et on écoute tout de suite Femme Oignon.
Les seins gonflés, la nuit blanchie, les dents rangées, j'enchaîne les positions, surenchère de propositions, extra perte en manche pour les queues pilons, orgasme sur commande de la production, j'avale toutes les amertumes sans omission. Thank you.
C'était donc La femme oignon d'Anouk Ilbet. Et Mighty Boops avait très envie de nous parler, de continuer, de prolonger cette discussion avec, avec Bulle et avec nos auditrices, en approfondissant un petit peu la thématique de la représentation des femmes dans le milieu de la culture. C'est à toi.
Oui, tout à fait. Alors, on parle avec Bulle d'art et de féminisme. On parle de peinture féministe. Et justement, je suis allée voir la peinture d'Alice Neal récemment à Beaubourg. Et je me suis mise à repenser à la manière dont sont exposées les femmes dans notre société si visuelle. Alice Neal, donc, elle est morte il y a environ 40 ans quand même. Elle était peintre new-yorkaise et elle montrait le monde qu'on a peu l'habitude de voir au musée. Elle mettait en couleur sur ses toiles des portraits des délaissés de la société, des travailleurs, des travailleuses de l'ombre. On voit ça à leurs mains, à leur air fatigué. Des immigrés, des femmes vieilles, des femmes sans artifice, fatiguées par les grossesses et sans cours de pilates à la clé. Des femmes enceintes, des personnes invalides. Elle montrait les luttes aussi au début de sa carrière. Elle a fait plusieurs tableaux de manifs antiracistes, anticlassistes, dans la première moitié de sa carrière. Donc, elle montre les personnes qu'on a peu l'habitude de voir sur les murs, sur les tableaux. Des personnes ravagées par la pauvreté, la maladie. Elle peint des gavroches. Ses portraits sont beaux. Et c'est parce qu'ils sont intenses. Ils sont le monde, c'est parce qu'ils sont réels qu'ils nous parlent toujours. Et c'est beau parce qu'avec son talent et son empathie, elle montre finalement la vérité des gens. Elle donne le goût des autres, elle fait de la politique et de l'éducation populaire par sa peinture. Bah, désolée, l'expo s'achève demain. Ouais. Parce que la pratique artistique a longtemps été l'apanage des hommes, littérature, peinture, sculpture, musique, théâtre, et puis plus tard cinéma et bande dessinée, les femmes sont évincées. Oui, bon, vous allez me dire, ok, c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on lutte contre ça, t'es pas au courant. Moi, j'accusais plutôt le marketing, la publicité, le capitalisme, pas forcément l'art. Alors, bien sûr, il y a des exceptions tout au long de l'histoire, mais quand même, notre société visuelle a reçu en héritage de la part de ces hommes artistes une vision des femmes massivement blanches, fines, sculptées, jeunes et valides. Et juste par l'exercice des codes de leur classe, de leur origine, de leur genre, ils transmettent leur propre lecture du monde et donc l'influence. Ces hommes, pendant des siècles, transcrivent, transdessinent, transpeignent, transfilment, en gros, transmettent leurs imaginaires d'hommes à travers leur art. Ils décrivent le monde comme ils le comprennent, comme ils le vivent ou comme ils le fantasment. C'est tout à fait logique d'ailleurs qu'ils exercent leur art en fonction de leur exercice du monde, mais le problème c'est que ça diffuse les codes du sexisme et ça construit le modèle social comme ça. Voilà pourquoi donc on est entouré d'une image de femme témoin, de femme modèle. D'ailleurs, vous pouvez faire le test en tapant « silhouette femme » dans votre moteur de recherche préféré. Vous aurez une fine silhouette galbée en jupe et en talons aiguilles avec des pochettes de shopping à la main. J'ai essayé, je vous conseille de le faire. Bon, on pourrait dérouler cette chronique avec d'autres prismes que le sexisme, par exemple le racisme, le classisme, le validisme, la grossophobie, mais bon, on laissera ça pour un autre jour. Je voulais revenir sur l'image des femmes dans le cinéma. Parce que c'est un archétype d'homme blanc très valide, très fort, très viré, très courageux qui domine. Il incarne largement les personnages du bien, le bon flic, le gardien du temple, le décideur, celui qui dirige les opérations, qui secourt la veuve et l'orphelin, qui secourt les vulnérables princesses des dragons qui les retiennent captives. Et même qui sauve la ville, le pays entier, que dis-je, qui sauve le monde en combattant avec courage, pugnacité, détermination les méchants et les méchantes, et qui ainsi gagne la bourre d'une belle femme. À la fin, qui apparaît là comme par hasard, comme un trophée ou un simple cadeau ou un simple réceptacle pour assurer la perpétuité de toutes les qualités du personnage. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée que ça serait une fin heureuse, mais bon. Quelquefois, dans les méandres du scénario de sa quête héroïque, l'homme blanc de qui dépend l'avenir de l'univers est flanqué d'une femme, lui permettant de montrer sa part sensible, d'assouvir ses besoins primaires. Et bien souvent, d'ailleurs, cette femme sera victime du syndrome Trinity, du nom de celle qui se sacrifie pour que l'élu, si peu, puisse vaincre. D'ailleurs, seulement 57,1% des 9800 films analysés passent le test de Bechdel, du nom de cette autrice de BD queer. Les films sont regardés à travers ces trois critères. Petit 1, il y a au moins deux femmes dans l'histoire. Petit 2, des femmes qui parlent entre elles. Petit 3, qui parlent d'autre chose que d'un homme. Alors, d'autres tests existent pour identifier la domination masculine. Le test de Makomori, par exemple, qui regarde si les personnages féminins ont des arcs narratifs autonomes. Ah oui, il y en a un autre qui me plaît encore plus, qu'on doit à une scénariste et réalisatrice Kelly Sue de Konik. Il est hyper facile à faire mentalement. Ça s'appelle le test de la lampe sexy. Elle s'est inspirée d'une lampe dont le pied était une jambe de femme très sexy pour trouver le nom de son test. Et on remplace, il suffit de remplacer le les personnages féminins par une lampe et on regarde si ça change l'histoire. Par exemple, aucun James Bond ne passe ce test. Quant aux films d'animation destinés prioritairement aux enfants, il semblerait que les temps aient un poil changé. Hein. C'est pas compliqué vu d'où on part. Hein. Moi, j'ai grandi avec les vieux Disney. Vous allez me dire, ok, boumeuse.
Bah,
où les filles et les femmes soit chantent avec les oiseaux, soit sont recluses à l'intérieur des maisons en raison de leur fragilité et elles attendent l'amour qui déboulera un jour sur son cheval blanc et qui la prendra pour épouse et pour reproductrice. Sans vraiment demander son consentement, d'ailleurs. Ok, ok, c'est vrai qu'on n'en est plus là, mais combien de temps, sérieusement, combien de temps il m'a fallu à moi aussi pour déconstruire, pour détruire même ce principe de la princesse passive qui attend l'amour. Combien ? Donc il semblerait que les films montrés aux enfants aujourd'hui aient un peu changé, que ça montre aujourd'hui des femmes puissantes, des piratesses, des chevaleresses, des monteuses de dragons, des reines des neiges, des révoltées. C'est un bon début, mais si on regarde de plus près, ces femmes puissantes sont presque toujours en deuxième, à côté d'un homme, et sont toujours des exceptions dans le système sexiste du patriarcat. Ces quelques femmes puissantes évoluent toujours et encore dans un monde rempli de codes masculins. Elles sont obligées pour la plupart d'adopter ces codes pour s'en sortir, et finalement réussir leurs aventures. Par exemple, dans la trilogie des dragons, Harold, le jeune héros, un enfant, hérite sans démocratie de la place de chef, alors que c'est sa mère et sa meuf, qui sont aussi les piliers de la lutte. Elle le conseille, elle le rassure, et le héros garde sa place. Alors allez, on a besoin d'encore un petit effort, messieurs les dessinateurs et les artistes. Soit faites de la place à vos sœurs, soit changez les codes, s'il vous plaît. Parce que moi j'ai envie de montrer à mes enfants des histoires de femmes libres, fortes, indépendantes qui évoluent dans leur monde. Un monde sans sexisme, ni racisme, ni aucun autre rapport de domination. Mais ça n'existe toujours pas, ni le personnage queer non plus n'existe pas. Ou alors il n'y a que moi qui ne suis pas au courant, c'est possible. Hein. Le monde de la bande dessinée semble être en mutation lui aussi. Ça y est, elle s'installe dans le paysage, les dessinatrices. Je pense bien sûr à Emma, à Lou Luby, à Pénélope Bagieu, etc. Mais on dirait que, mais c'est pas pour critiquer, mais on dirait que leur talent de bédéiste, je sais pas comment on dit, bédéiste.
C'est ça, bédéiste. Hein.
Et comme un exutoire et toutes ces dominations subies pour l'instant, l'espace semble occupé à décrire des mécanismes du sexisme ordinaire. Ce sont souvent des documents sociologiques ou des documents d'histoire, et c'est génial de pouvoir utiliser la BD pour se rendre accessible au plus grand nombre. Mais où sont les aventures dans des mondes imaginaires ou les fictions ou les histoires qui nous transportent, qu'on veut montrer à nos enfants pour qu'on puisse se projeter dans la peau des héroïnes qui s'en sortiraient aussi bien que les hommes dans leur quête et sans les hommes. Donc ma chronique est une supplique, chers artistes, un encouragement pour vous demander d'utiliser votre art pour influencer la construction d'un nouvel espace social.
Ok, c'est compris. Tout le monde se bouge un peu maintenant. Alors,
je dis ça parce que j'ai pas de talent artistique.
Bulle, Mighty Boops évoquait l'expo Alice Neal en début de sa chronique. Mm. Toi, tu l'as vu?
Moi, je l'ai vu et du coup, c'était aussi mon coup de cœur. Donc, on a fait un. C'était mon coup de cœur. Oui, je l'ai vu. La première fois que j'ai découvert Alice Neal, c'était à la Fondation Van Gogh à Arles. Il y a 4-5 ans, je pense, j'avais adoré. Il y avait quelques peintures. Et du coup, là, quand j'ai vu l'année dernière qu'il allait avoir une rétrospective à Pompidou, j'étais ultra contente, quoi. Donc, j'y suis allée dès le début.
Mmh. Ok.
Et c'était drôle. Très puissant. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment... Ouais. Il y avait vraiment de tout. Et notamment, il y a beaucoup de nus. Il y a des hommes, les jambes écartées, on voit tout. Il y a une nana aussi qui doit faire du bandage, qui a des piercings dans les seins. Enfin, il y a vraiment des trucs. Et il y avait une femme qui était là avec son petit garçon de 4-5 ans. Et je me souviens, il était à côté. Il fait « Maman, regarde, elle est bizarre, la dame. » Je me disais « J'aimerais pas quand même. » J'ai emmené mon fils, j'étais avec mon fils et ma nièce là-bas. Alors, ils ont fait l'expo en 3 minutes et demie. Après, ils se sont recollés sur leur téléphone. Mais le petit gamin, c'est vrai que je me suis dit, à un gamin de 4-5 ans là, qui posait des questions à sa mère sur les positions. Et puis justement, Alice Neal, c'était une des premières à avoir peint une femme qui avait subi des violences conjugales. La toile s'appelle Peggy, elle a des bleus. Et c'était une des premières, à illustrer ce sujet, en fait.
Ah ouais. Ok, bon. Eh ben, c'est trop tard, ça termine demain. Mais en tout cas, courez-y ouais, s'il y a une nouvelle expo ou allez vous renseigner sur le net. Alors, on va vite passer aux brefs d'actu, à quelques brefs d'actu. Je vais vous demander d'être rapide, mes chères chroniqueuses, s'il vous plaît. Glitch, c'est à toi.
Ok, je vais faire très vite. C'est Miss France a assoupli ses règles l'année dernière. Ça n'a pas changé grand-chose au concours et on ne va pas se mentir, Miss France, il y a toujours plein de problèmes. Mais dans les faits, ils ont quand même assoupli leurs règles sous la pression des assos féministes et c'est quand même une victoire, on ne va pas se le cacher.
Oui. Donc,
non mais je veux dire, au moins ça avance. Je ne dis pas que c'est parfait.
Vas-y, vas-y.
Et donc, ils acceptent maintenant les femmes trans, les mères de famille, les femmes tatouées et les femmes de plus de 25 ans. Il serait temps.
Mais j'ai peut-être mes chances.
Les mères de
demain,
famille,
vas-y.
Elles n'étaient pas...
Ah non, avant, tu ne pouvais pas être mariée non plus, ni pacsée, il me semble.
Voilà. Waouh,
la Vierge doit être Miss France.
Ouais. Alors, c'est un peu comme Jeanne d'Arc. Ouais. Mighty Boops, c'est à toi.
Oui, bah, un big up, du coup, un peu dans la continuité de cette petite chronique que je vous ai livrée tout à l'heure. C'est un big up pour l'Académie des Césars, dont le bureau annonce un retrait d'un acteur de la liste des inscrits aux Révélations 2023 et annonce, suite à des débats qu'on imagine passionnants sur la séparation de l'homme et de l'artiste. Ça vous rappellera peut-être le genre de débat de fin de soirée que vous pouvez avoir entre potes. Donc ce bureau des Académies des Césars a conclu, mesdames, messieurs, sur la modification de son règlement. En effet, dorénavant, il s'agit de ne plus mettre en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice pour des faits de violence. Et un peu plus loin dans le règlement, ça précise que ces personnes ne pourront pas être invitées à la cérémonie ni à aucun autre des événements qui lui sont associés et qui sont organisés par l'Académie des Césars, en espérant qu'il y ait encore quand même quelques personnes à ces cérémonies. Donc j'ai envie de saluer cette décision courageuse, mais surtout j'ai envie de dire que c'est pas trop tôt, et surtout un grand merci et un grand bravo à toutes les sœurs qui ont le courage de dénoncer les violences qu'elles ont subies, adultes ou enfants d'ailleurs, et qu'on les espère réparer aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, c'est une nouvelle année, hein, première émission de l'année 2023, et on avait envie de faire un petit focus sur les victoires féministes 2022. Bon, on ne va pas regretter 2022 en tant que féministe, on ne va pas vous mentir. On ne s'est pas permis de vous balancer nos meilleurs voeux comme ça d'emblée en début d'émission. Pourquoi ? Parce que l'histoire des luttes des femmes et LGBT+, nous a appris que les avancées s'obtiennent non pas par la simple envie d'y croire, par des bons voeux, mais bien par des combats collectifs. Donc ce début d'année reste quand même l'occasion de faire un petit tour d'horizon du monde en forme de bilan. On aurait pu aussi faire le choix de revenir sur tous les obstacles, les backlash vécus par les femmes et les minorités opprimées partout en 2022. Et ils sont nombreux, et on pense à l'Iran, et on pense à l'Afghanistan dont a parlé Bulle tout à l'heure, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en France. Enfin bref, on a préféré rester dans l'optimisme et faire des focus sur les victoires féministes et LGBT+ de cette année écoulée. Et on commence par toi, Glitch.
Oui, alors... cette année, en culture, on a eu Annie Arnaud, notre écrivaine cocorico française et féministe, qui a eu le prix Nobel de littérature. Donc c'est la première autrice française à l'avoir et la 17e en 121 ans dans cette catégorie à être récompensée par l'Académie royale suédoise. Et si certains d'entre vous ne le savent pas, en 2021, son livre « L'événement », qui raconte son avortement avant la loi Veil, a été adapté au cinéma. Donc si certains ont la flemme de lire le livre, vous pouvez toujours vous intéresser au film, qui apparemment est très bien.
Ouais, c'est une super adaptation, franchement.
Ouais. Vraiment très touchante, assez puissante. Mighty Boops, c'est à toi, on part en Écosse.
Oui, le gouvernement écossais est pour l'instant le seul à avoir mis en place une politique d'ampleur contre la précarité menstruelle. Une loi est entrée en vigueur en Écosse le 15 août dernier et elle met à disposition des protections périodiques gratuites pour toute la population. Je demandais ça dans ma chronique du mois dernier. Dans des points de distribution localisables par une application dédiée, les établissements scolaires, universitaires, collectivités locales sont dans l'obligation de fournir ces protections, comme quoi c'est possible.
Moi, je vous emmène à Singapour avec une avancée pour les droits des personnes LGBT+, puisque les autorités de cette cité-État viennent d'abroger l'article du code pénal qui était hérité de l'époque coloniale et qui criminalisait les relations sexuelles entre hommes avec une peine maximale, s'il vous plaît, de 2 ans d'emprisonnement pour des rapports sexuels. Nous passons à l'Espagne.
Oui, l'Espagne devient officiellement le premier pays européen à instaurer un congé menstruel. Cette mesure fait partie d'une nouvelle loi avortement et permet aux personnes ayant des règles très douloureuses d'obtenir un congé payé par la Sécurité sociale sur certificat médical. Et toujours en Espagne, depuis le 6 septembre dernier, 2022, je rappelle, les employés de maisons espagnoles ont les mêmes droits que les autres salariés. Elles bénéficieront donc des allocations chômage et, accrochez-vous, ne pourront plus se faire licencier sans justification. Ça concerne quand même 400 000 personnes, dont 95% de femmes.
On termine par un petit tour d'horizon, ce petit tour d'horizon 2022 avec la Colombie.
Oui, donc bonne nouvelle en Colombie. Après l'arrêt du lundi 22 février, l'arrêt du lundi 22 février 2022 a autorisé les femmes à recourir à une IVG pour n'importe quel motif jusqu'au 6e mois de gestation. Avant, s'il y avait un viol, s'il y avait un viol, une mère en danger ou un fœtus avec une malformation qui compromettait sa vie. Et c'était 16 à 54 mois d'emprisonnement. Quelle joie si vous avortiez en dehors de ces conditions. Et donc maintenant, ce n'est plus le cas. C'est allongé à 6 mois de gestation pour n'importe quel... 6 semaines, je pense. Je pense que j'ai mal noté. Ça me semble étrange. Toujours en Colombie, on a une vice-présidente noire en poste. Ce qui est également une bonne nouvelle, car c'est la première fois de leur histoire.
Bon, il y a plein de bonnes nouvelles, alors on se réjouit, on est content. Et on va maintenant, merci à toutes pour ce petit tour d'horizon, ça donne un petit peu d'optimisme. Et on va continuer dans l'optimisme avec un peu de musique. Mighty Boop, tu veux bien nous parler de ce morceau ?
Ouais, c'est Lizzo, alors c'est pas si nouveau, mais ça donne envie de danser. Lizzo, c'est d'abord de la musique joyeuse qui fait remuer son corps. Et puis quand on regarde de plus près, c'est des chansons anti-grossophobie. Elle incite les femmes grosses à s'aimer, peu importe leur reflet dans le miroir. Lizzo clame « Nous sommes belles et sexy » dans ce morceau intitulé « Juice ».
Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, nigga, better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
superbe ambiance dans ce studio pour retrouver nos connus, nos célèbres plans cul. Et on commence avec toi, Glitch.
Oui, alors moi, je voulais vous conseiller un livre qui est un livre plutôt en fait pour les ados ou les adultes, évidemment, ou les enfants même, qui s'appelle « L'enlèvement de Perséphon ». Et autre mythe où les déesses règnent sur l'Olympe. C'est illustré par Carrie Fransman et c'est écrit par Jonathan Plackett. C'est publié en français, hein, vous en faites pas. Et c'est donc la réécriture de mythes grecs, complètement inversée. Et l'édition française est préfacée par Titu Lecoq, qu'on connaît pour avoir écrit sur la charge mentale et sur les femmes dans l'histoire. Donc il y a plusieurs choses dans ce bouquin qui sont intéressantes. Déjà, les illustrations sont magnifiques, donc vraiment, ça fait plaisir. C'est court, c'est facile à lire, puisque ce sont des mythes, donc on les connaît. Le but, c'est d'inverser les rôles genrés. Il n'y a pas vraiment de réécriture de l'histoire. Et du coup, il y a des caractéristiques connotées masculines qui se retrouvent attribuées à des femmes. Par exemple, Perséphon qui hurle et pleure lorsqu'il se fait enlever par Hadia. Et ça donne du coup une nouvelle lecture très engagée et très féministe. Par exemple, Prométhée qui va donner le feu aux femmes pour qu'elles acquièrent leur indépendance. Donc la cible, c'est les ados, voire les enfants. Mais ça permet vraiment une relecture de ces mythes grecs qu'on connaît, qui est complètement différente et qui place les femmes dans une position de force dans laquelle elles ne sont pas d'habitude dans ces mythes-là.
Voilà. Tout à fait. Un milieu bien hétéro,
oui, hein, très très
bien machiste chez les Grecs, chez les dieux grecs et romains. Mighty Boops, tu veux bien nous causer de bande dessinée, je crois.
Oui, bah c'est une BD qui est sortie déjà un petit peu il y a quelques temps, mais franchement, si elle vous a échappé, faut absolument la. Je pense qu'elle peut être dans toutes les médiathèques. Ça s'appelle Et à la fin il meurt, une BD de Lou Luby. Avec beaucoup d'humour, elle nous raconte l'histoire des contes de fées. Elle raconte comment les contes populaires de la nuit des temps qui se transmettaient oralement de génération en génération, de mère en fille, comment ils ont été modelés avec l'apparition de la littérature et par ceux qui y avaient accès aux études de lettres, des hommes donc, qui modulèrent les histoires à leur bon vouloir. Lou Luby donc décrypte pour nous de manière cinglante et hilarante trois contes et nous livre leur version originale.
Et c'est très drôle.
Très
drôle. Un bel objet et c'est très drôle.
Ouais.
Moi, je vais vous causer d'une série, parce que bon, ça cause bouquin, oh là là. Moi, je vais vous parler un peu d'images. Diffusée en septembre dernier, c'est une série de 10 épisodes de 26 minutes qui s'appelle « Cher tendre » et qui nous raconte l'itinéraire de Sacha, une adolescente intersexe. On n'est pas dans un documentaire, hein, mais dans une fiction qui est très réaliste et qui fait très rare à, pour héroïne, une personne intersexe. Alors, petit rappel... parce qu'il y a souvent des confusions dans le lexique. Les personnes intersexes ou intersexuées sont des personnes qui naissent avec un corps qui ne répond pas à la définition normative d'un homme ou d'une femme. Une variation intersexe, c'est un phénomène naturel. Et finalement, c'est assez, c'est plus répandu qu'on pourrait le penser. Il faut savoir, par exemple, que les enfants intersexes représentent 1,7% des naissances. Par exemple, en 2019, ça a représenté 12 800 bébés, ce qui n'est pas rien. Alors, il faut insister là-dessus, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une anomalie. Ça mériterait qu'on fasse vraiment une émission d'ailleurs dédiée sur cette thématique. Même si ce n'est pas, donc on l'a dit, une pathologie, il y a de nombreuses personnes intersexes françaises qui ont subi des interventions médicales très lourdes et répétées qui visaient à les faire rentrer de force dans les cases ou bien femmes ou bien hommes. La DILCRA explique que la moitié des personnes intersexes ont ainsi été charcutées alors qu'elles étaient encore mineures. Et de ce fait, on considère que seulement 45% des personnes intersexes ont pu consentir de manière éclairée, en toute connaissance de cause, à ces actes de chirurgie. Qui, en plus, s'avère dans l'extrême majorité des cas, absolument pas nécessaire pour la santé physique ou psychique ou même sexuelle. Donc Sacha, le personnage central de la série, fait partie de ces enfants qui ont été opérés sans même en comprendre la raison. Et il se retrouve coincé dans un corps que la société rejette, que la société maltraite à cause de sa différence. La série va montrer la vulnérabilité, la stigmatisation sociale, les violences vécues par les personnes intersexes. On n'est pas dans le pathos pour autant. C'est une fiction qui alterne des moments assez durs, mais aussi des jolis moments de rencontre, d'amitié, d'amour, qui vont permettre à Sacha de s'affirmer peu à peu et d'affirmer ses choix. Et donc c'est avant tout une histoire d'émancipation qui donne de l'espoir. Et ça, Ça se passe dans le replay de France TV slash. Je crois, Bulle, que tu l'as vu, oui, et que c'est aussi un coup de cœur.
J'ai adoré, ouais, aussi. Ouais. Puis là, c'est celle qui joue Sacha, je ne me rappelle plus son prénom. Oui. Elle joue vraiment super bien. Ouais. Il faut la regarder, cette... J'en ai même parlé à mes élèves, je leur ai dit de la regarder aussi, parce que...
Ouais, tout à fait.
Dans les collèges, ils ne sont pas forcément les collégiens très...
Très au fait. Ouais. Et tu avais un petit coup de cœur à nous partager ?
Alors, donc il y avait Alice Neal, mais voilà, on en a parlé. Sinon, il y a encore une exposition de Frida Kahlo jusqu'au 5 mars 2023 au Palais Galliera. C'est pas une exposition de peinture, hein. Il y en a qui vont, qui sont un peu déçus, mais justement, c'est pas mieux. Mais c'est en fait toutes ces robes, ces objets, ces corsets, ces médicaments qui avaient été mis dans une pièce lors de sa mort. Et c'est Diego Rivera, son mari, qui l'a rouvert je sais plus en quelle année il est mort, Diego. Bref, ils ont rouvert cette pièce et il y a tous ces bijoux, il y a beaucoup de bijoux, il y a toutes ces robes. Il y a des robes qui sont, il y a des robes qui sont pas forcément à elle, c'est ça qui m'a un peu déçue. Mais sinon, il y a toutes ces robes, ces corsets, ces chaussures, voilà, c'est une super belle expo, très bien documentée.
D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup. On arrive pratiquement à la fin de cette émission et on va passer maintenant au moment où on va se retrouver d'ici notre prochaine émission qui aura lieu en février. Juste pour vous rappeler quand même que déjà, si vous voulez qu'on se voit pour de vrai, on va se retrouver le 19 janvier dans la rue, ok ? Alors pourquoi ? Parce qu'on va manifester contre la réforme sur les retraites. Pourquoi ça nous concerne en tant que féministes ? Petit rappel, en 2020, la pension moyenne de l'ensemble des femmes retraitées, sans la pension de réversion, hein, comme on dit pour les femmes mariées, représente seulement 59,8% de celle des hommes. D'accord ? Ça, c'est un chiffre clé à retenir. Une des raisons de cet écart, qui est quand même assez sidérant, ça tient au fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. Et le calcul de la pension de la retraite pénalise plus fortement les carrières courtes et les périodes de temps partiel qui concernent des emplois majoritairement occupés par les femmes. Je pense que ça vaut le coup de se battre. Et en tout cas, vous retrouverez les clitoriciennes dans la rue. On te retrouve où, toi ?
Moi, on me retrouve au théâtre le 1er février. Je vais voir une pièce au CNDO qui s'appelle Misericordia et qui est sur trois travailleuses du sexe qui élèvent un enfant orphelin et handicapé. Alors comme ça, ça a l'air triste, mais je crois que c'est un texte assez lumineux et assez positif, de ce que j'en ai lu.
D'accord, ok. Mighty Boops, on te retrouve quelque part ou
Oui, bah, vous pouvez me retrouver demain lundi donc à l'Azelco des Carmes, où il y a l'association Mémoire Plurielle qui va faire un petit projection de débat autour de trois courts-métrages sur les migrations. Donc c'est le premier, c'est Boza, une récolte de paroles de migrantes qui traversent la Méditerranée, qui est construit comme un selfie collectif. Aïssa, qui est une Congolaise en situation irrégulière sur le territoire français. Elle dit avoir moins de 18 ans, mais les autorités la croient majeure. Donc pour déterminer si elle est expulsable ou non, un médecin va examiner son anatomie. Et le troisième, c'est Pakis Flower, la première nuit mouvementée de Navid, un jeune Bangladais vendeur de roses à Paris. Et donc, pour se remonter le moral, un petit pot de l'amitié est offert. Et tout ça, c'est gratuit. C'est le 16 janvier à l'Azelco des Carmes. À 14h30.
Excellente association locale, Mémoire Plurielle. Bulle, ton actualité, toi, artistique ?
Alors moi, on me retrouvera, mais ce sera fin mars, 17, 18, 19 mars, pas Orléans, désolé, à Châtillon. Voilà, une exposition, je crois, 100% féminine, organisée par Florence Mouton.
D'accord.
Donc, bon, je mettrai des infos sur Insta, Facebook.
C'est exactement ce que j'allais dire.
J'ai pas encore trop de...
On retrouve toute ton actualité artistique sur les réseaux sociaux, Instagram, sur ton blog, ton site internet.
Ah, mon site, ouais, c'est vrai.
Dont on a parlé tout à l'heure, hein, et que tu entretiens régulièrement. Oui. Retrouvez aussi toutes les infos des clitoriciennes 88.3 sur Radio Campus. Vous nous retrouvez sur Instagram et Facebook. Et on se quitte avec un morceau de Romane, artiste de 23 ans, artiste française de 23 ans, qu'il faut suivre et qui va faire un concert à Blois là, dans 15 jours, je crois. Le morceau s'appelle Fantaisie.
Et on remercie Vivi à la technique.
Et on remercie bien sûr Vivi à la technique, vraiment, de nous secourir chaque mois. Merci à toi.
I saw your eyes, my rock, my pillar. At first, but soon it was the same trouble in that bubble.